Il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Et bien sûr, pour co-présenter cette émission, nous sommes en compagnie de Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, en ce début d'année, parfaitement bien. Bonne année à tous les auditeurs.
C'est gentil, bienvenue à tous. On va s'intéresser pour ce premier numéro de l'année à la France qui évolue sous nos yeux. Un ouvrage éponyme de Jean-Laurent Casselli qu'on va découvrir et je vous propose, Philippe, de présenter.
Alors, quel est le visage de cette France de début de 21e siècle dans laquelle nous vivons? Ou plutôt, quels sont les visages de notre pays, étant entendu que notre pays s'est transformé en profondeur? Il y avait la France d'avant, celle de l'industrialisation et de l'agriculture, et puis il y a cette France de maintenant, j'allais dire cette France d'après, qui a profondément changé au cours de ces 30 dernières années. Notre pays est ainsi passé d'une économie de production à une économie de consommation, et cela emportant tout un tas de conséquences sociales, culturelles, économiques qui transforment nos modes de vie et nos façons de penser notre pays. À quoi ressemble donc cette France d'aujourd'hui? C'est ce dont nous allons parler avec notre invité qui, à la façon d'un entomologiste, d'un sociologue et d'un anthropologue, et les trois à la fois, à scruter les mutations souterraines de notre pays pour mieux en comprendre les ressorts. C'est cette France des ronds-points, des parcs d'attractions, des hypermarchés, des plateformes logistiques dont nous allons parler à l'occasion de cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest en compagnie de Jean-Laurent Casselli, co-auteur avec Jérôme Fourquet d'un best-seller, La France sous nos yeux. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Complètement à l'Ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Jean-Laurent Casselli. C'est un très grand plaisir de vous accueillir à ce micro pour cette première émission de Complètement à l'Ouest au titre de cette nouvelle année 2022. Alors Jean-Laurent Casselli, vous êtes journaliste à Slate.fr et à L'Express, sans oublier que vous êtes l'auteur de plusieurs essais en lien avec nos modes de vie et les grandes tendances de société. Je pense notamment à La révolte des premiers de la classe ou encore No Fake, avec pour sous-titre Les réseaux sociaux, nouveau terrain de la controverse scientifique.
Non, c'était un autre livre. C'était un livre sur l'authenticité, en fait.
Voilà, donc un troisième livre.
Pardon, non, en fait, c'était pas un sous-titre d'un livre que j'ai écrit.
No Fake, en tout cas, c'est un livre, et les premiers de la classe également,
oui, tout à fait.
Qui sont bien sûr de votre signature. Alors, mais ce qui explique aujourd'hui votre présence à ce micro, c'est la parution fin 2021, je le disais, d'un véritable best-seller, qui a d'ailleurs obtenu fin décembre, je crois, le prix du livre d'économie en 2021 pour La France sous nos yeux et pour sous-titre Économie, paysage, nouveaux modes de vie, publié aux éditions du Seuil. Alors, il a été écrit à quatre mains par le directeur du département opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet, et par vous-même. Et c'est un livre imposant dans tous les sens du terme, d'abord en volume, 477 pages, et imposant aussi par l'extrême variété des sujets que vous abordez, urbanisme, mode de vie, religion, travail, loisirs, tout ou presque y passe pour dépeindre cette France du début du XXIe siècle. Alors, avec ce livre, on va y venir dans un instant, vous scrutez la France sous les radars. On se trouve littéralement happé dans un travelling panoramique, tellement ce livre fourmille d'éléments sur la façon dont nous vivons aujourd'hui en France. Des filons qui s'enchevêtrent les uns aux autres pour au final dessiner une carte postale sociologique de notre pays. Mais avant que l'on parle de cette France sous nos yeux, nous commençons toujours cette émission par un court extrait sonore. Alors d'ordinaire, c'est un extrait de film, mais pour cette fois, un titre s'est naturellement imposé. Ce titre, c'est celui de la chanteuse Diams et son titre que vous connaissez sans doute, Ma France à moi. On l'écoute.
Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mer un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante, mais dans le fond, elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire.
Alors, Jean-Laurent Casselli, nos 35 minutes d'émission ne suffiront pas à évoquer tout ce qui doit être dit sur cette France sous nos yeux. Mais cette première question, en lien avec notre présence dans ce studio de Radio Imo, l'animateur Stéphane Plaza a récemment été élu deuxième personnalité préférée des Français, devant d'autres présentateurs, Jean-Luc Reichmann, Cyril Lignac, Nagui, Julien Courbet. Alors j'imagine que ça ne doit pas beaucoup vous surprendre, vous qui avez forgé le concept de Plaza majoritaire, pour décrire le fait que les Français sont plus que jamais à la recherche de leur home sweet home ou d'un Sam suffit, comme il est dit dans le livre, à acquérir et à embellir. Et ceci, bien sûr, dans un contexte où le prix moyen du mètre carré en France est sur le point de franchir les 3000 euros. Alors cette question, pour s'échauffer, j'allais dire, compte tenu de la densité des autres thèmes que l'on va aborder, tant en termes d'urbanisme que de sociologie, que traduit ce modèle de Plaza majoritaire tel que vous l'avez décrit ?
Alors, c'est vrai que, comme vous l'avez rappelé, Stéphane Plaza est régulièrement sur le podium des animateurs préférés des Français. En tout cas, il est indéniablement l'agent immobilier le plus célèbre de France et le plus populaire. Et c'est pour ça qu'on utilise quelque part cette figure populaire, charismatique dans notre livre. C'est pour montrer que l'immobilier, le logement, le cadre de vie, ces thèmes-là ont pris une importance majeure dans la France contemporaine, ce qu'on appelle avec Jérôme Fourquet la France d'après. Et on joue un petit peu avec l'esprit des émissions de Plaza que moi j'ai longuement regardé, les fameux recherches appartements ou maisons dans lesquels on voit tout type de Français, en fait toute catégorie de gens à la recherche de leur home sweet home, de leur logement idéal. Et on a voulu traduire à travers ce clin d'œil cette centralité du logement dans un monde, d'une société qui devient complexe, qui est dure et dans laquelle les gens peut-être se réfugient dans leur logement et investissent dans tous les sens du terme en fait ce logement. Et c'est aussi un clin d'œil à l'urbanisme pavillonnaire, celui des maisons, qui est le modèle, vous le savez, le modèle majoritaire, en tout cas dans les têtes, c'est l'idéal de logement des Français, puisqu'environ 1 sur 2 vit en maison individuelle. Mais en revanche, dans les enquêtes d'opinion, quand on demande aux gens dans quel type d'espace ils aimeraient vivre, c'est toujours la maison individuelle qui gagne à 70, voire 80, 90%. Voilà, donc c'est un modèle qui est majoritaire dans les têtes.
Donc c'est le modèle Plaza majoritaire.
On va bien sûr revenir en détail sur quelques thèmes de votre livre, mais tout d'abord, confirmation de cette analyse après lecture donc de votre livre. Au fond, on serait passé au cours des 30 dernières années d'un système économique organisé, pensé autour des activités de production, à un modèle de société centré prioritairement sur la consommation, le tourisme et les loisirs. Est-ce que c'est bien le sens de votre synthèse ? Et encore, question abyssable, une autre question, est-ce que c'est un modèle de société qui peut tenir sur la durée ?
C'est un modèle dont on a vu les tensions, je dirais, autant à l'époque de la crise des Gilets jaunes que pendant la crise sanitaire du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces deux épisodes, qui sont très importants, dont on parle d'ailleurs dans le livre ? Il s'est passé que la France, les médias, les observateurs, les experts ont découvert quelque part un nouveau prolétariat des services, avec par exemple cette figure du charisme d'anthropologistique qui était assez centrale dans les ronds-points, vous vous souvenez, pendant la crise des Gilets jaunes, qui pour nous est une figure importante parce qu'elle montre un basculement de l'univers de la production et de l'ouvrier d'usine vers un modèle de l'ouvrier des services, de la logistique, de la grande distribution, qu'est ce cariste d'entrepôt, que peut être la caissière de supermarché également. Et on voit à travers cette évolution du paysage social, économique français, le basculement d'une partie des classes populaires vers les services. Et c'est vrai que souvent, on a l'image des classes populaires comme, vous savez, un peu cet ouvrier à l'agent Gabin avec une casquette dans les films des années 70.
Tout ça, c'est fini, vous le
dites. Tout ça, c'est terminé.
Le col bleu, la France des cols bleus,
c'est terminé. Voilà, c'est ça, la France des cols bleus, c'est fini. C'est plutôt la France des gilets jaunes, justement, puisque c'est à la base l'habit technique que mettent les professionnels, les chauffeurs routiers, comme les gens qui travaillent sur les chantiers ou dans des entrepôts.
Et en lien avec la question posée, est-ce que tout ça donc, va tenir sur la durée ? Autrement dit, c'est cette France-là que l'on a sous les yeux pour les 30, 40, 50 prochaines années ?
Vous savez, il y a un thème qui est très à la mode, c'est celui de la grande démission. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'emploi, sur les reconversions professionnelles. Mmh. À l'époque, c'était les reconversions professionnelles des cadres sup qui s'ennuyaient dans leurs open space et qui devenaient boucher charcutier ou prof de yoga. Là, il y a une nouvelle crise de l'emploi, c'est celle des emplois peu qualifiés, les gens des services à la personne, les gens qui travaillent par exemple auprès des personnes âgées dans les EHPAD, les gens qui travaillent en hôtellerie, restauration, les gens qui travaillent dans le tourisme, dans la logistique. Tout ce monde-là, en fait, est en train de se poser la question de son engagement professionnel au service du reste de la société. Ce sont en fait les gens qui servent les autres. Et je pense que dans la société post-industrielle dans laquelle on vit aujourd'hui, la question c'est qui sert et qui est servi.
Et ça a été accéléré par la crise sanitaire. Tous ces gens qui sont finalement restés chez soi, ils ont pris, vous avez le sentiment que ça a accéléré les choses ?
Je pense que ça a accéléré les choses parce que, si vous voulez, on a été forcé de constater ce qui était, encore une fois, sous nos yeux. C'est un petit peu la raison d'être de ce titre, c'est que c'était déjà quelque chose qui était de l'ordre de l'observation. Mais je pense que le fait qu'une partie des gens partent en télétravail à la campagne et qu'une autre reste en ville, en première ligne, à s'occuper, par exemple, d'acheminer les produits, de les mettre en rayon ou de soigner les autres, ont bien montré qu'effectivement, il n'y avait peut-être pas deux classes, mais en tout cas deux configurations par rapport à cette crise. Et c'est pour ça que je pense que la crise sanitaire a été pour nous une sorte de révélateur.
Alors justement, tant en matière de consommation que de voyage ou de pratiques culturelles, vous parlez d'un décrochage du bas des classes moyennes, on vient un petit peu d'en parler, pour qui le bonheur signifie, je vous cite, avoir sa place à la grande table de la consommation. À grands traits, quelles sont les nouvelles habitudes de consommation en France et dans quelle mesure elles sont représentatives des fractures sociales et des inégalités entre territoires que vous écrivez ? Que vous décrivez, pardon.
Il y en a plusieurs. C'est vrai qu'on essaie d'expliquer une forme de polarisation à l'œuvre entre une partie des produits et des services qui montent en gamme, la fameuse premiumisation qu'on voit dans l'univers de l'automobile. Il y avait un article du Monde l'année dernière qui montrait que le prix moyen d'une voiture neuve était de 26 000 euros en France, ce qui en fait un produit assez éloigné de la classe moyenne.
Les prix augmentent sans cesse.
Pardon ?
Et que les prix des véhicules augmentent régulièrement.
C'est le cas évidemment de l'immobilier des grandes villes, qui est aujourd'hui un marché totalement hors de portée des catégories moyennes. C'est le cas de certaines destinations touristiques. Et puis de l'autre côté, on a ce décrochage, cette polarisation par le bas, avec toute l'émergence maintenant déjà ancienne du marché, du secteur du low cost, par exemple du hard discount en grande distribution. Il y a aujourd'hui des acteurs qui sont installés, des Aldi, des Lidl, et il y a aussi une nouvelle génération, une nouvelle vague de supermarchés qui sont en train d'arriver sur le territoire français, justement pour répondre à ce décrochage, qui est assez paradoxal, parce qu'on peut le voir comme une paupérisation de la population, mais aussi on peut le voir comme une volonté de continuer à consommer, à remplir son caddie et à aussi accéder aux loisirs, offrir des petits cadeaux ou des sucreries à ses enfants. Et du coup, les catégories moyennes, pour continuer en fait à être compétitives quelque part dans ce secteur-là, doivent toujours faire de plus en plus d'efforts parce que le seuil de moyennisation ne cesse d'augmenter.
Alors, une question de méthodologie, puisque dans votre livre « La France sous nos yeux », il y a un très, très, très grand nombre de cartes, de graphiques, d'infographies. J'en cite quelques-unes à la page 466. C'est une carte sur le renouvellement des électeurs par arrondissement à Marseille. On voit que vous êtes allé très, très dans le détail. À la page 348, c'est une carte qui fait référence au pourcentage de la population qui déclare avoir un accent marqué. Où avez-vous puisé autant d'informations, j'allais dire, hétéroclites, et quelle a été votre méthodologie de travail pour assembler ces informations aussi éparses et variées ?
Alors on a vraiment voulu, avec Jérôme Fourquet, faire feu de tout bois, mettre à notre disposition toutes les sources possibles et imaginables, à la fois celles de l'IFOP, puisqu'il est les sondeurs, et donc on a pu puiser dans un réservoir d'enquête d'opinion, en fait, ce qui est vraiment très, très précieux. On a des chiffres plus classiques, des sources type INSEE, par exemple, beaucoup qui enregistrent par exemple les mouvements de population, mais également l'activité économique. On a aussi des sources qui viennent de ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire l'ouverture par le numérique d'un certain nombre de données, soit publiques, soit privées, venant des entreprises. Un exemple que j'aime bien, c'est celui d'une carte qu'on a établie des communes les plus populaires sur le site Wikipédia, qu'on a pu établir grâce à un de nos cartographes, Mathieu Garnier, qui est aussi data scientist, c'est-à-dire qui est un spécialiste de la manipulation de ces données. C'est des fichiers qu'il faut aller chercher, c'est un peu comme des bons coins à champignons sur Internet. Il faut savoir où chercher, il faut savoir nettoyer les fichiers, il faut savoir les mettre évidemment en images et en cartes. C'est vraiment des compétences très spécifiques, donc on s'est reposé sur une équipe, je dirais, d'enquêteurs, en fait, de fin limier de la data. Et puis enfin, des choses plus classiques, des monographies, des récits de territoire qu'on a fait un peu à hauteur d'homme et à hauteur de villes moyennes. On parle de Biarritz, on parle de la banlieue parisienne, on va en Bretagne, on va dans la Drôme. Et ça, je dirais, c'est un travail plus classique, journalistique. C'est un peu Tintin reporter, quoi. On part avec son petit carnet et son téléphone pour prendre des photos, et puis on documente ce qu'on voit, quoi.
Alors, juste avant qu'on passe à la question suivante, à la page 404, c'est un graphique étonnant sur la proportion des 25-40 ans qui regardent des films en anglais ou lisent des livres en anglais, et tout ça selon le niveau de diplôme. C'est vraiment de l'archéologie que vous avez fait et qui se retrouve bien sûr pleinement dans votre ouvrage.
Oui, c'est vrai. Alors, on est en son compagnie hein, de Jean-Laurent Cassel, on rappelle. La France sous nos yeux, son ouvrage qui est sorti il y a quelques mois.
En octobre.
Et qui est un franc succès. C'est vrai que énormément détaillé. Vous êtes surpris vous-même par le succès d'un ouvrage comme ça. Bon, c'est pas évident à lire hein, non plus. Et pourtant, ça intéresse. La France intéresse les Français.
Oui, on est bien sûr surpris et heureux parce que c'est un livre qui est, je dirais, exigeant. C'est un gros livre, vous l'avez dit, il y a près de 500 pages. Il fait environ 1 kilo, je crois.
Et c'est, 1 kilo de France.
1 kilo de France, exactement. Il y a aussi 1 kilo de culture générale. Ouais. C'est un petit peu la même idée. Non, plus sérieusement, on a voulu faire un livre qui soit exigeant, mais qui ne soit pas une punition pour le lecteur, qui se lise peut-être pas comme un roman, mais en tout cas comme un voyage. Voilà, vous parliez de travelling au début de l'émission. Pourquoi le livre s'appelle La France sous nos yeux? Parce qu'en fait, tout ce lexique du visuel, du langage photographique, même cinématographique, nous intéresse beaucoup, nous inspire beaucoup. Et on aime bien quand on décrit tel ou tel paysage, telle ou telle réalité sociologique de la France contemporaine, plutôt que asséner des chiffres et noyer le lecteur sous les données, ce qui peut parfois être un peu plombant. Et ben faire peut-être un graphe par-ci, un chiffre par-là, une carte ici, mais surtout raconter l'histoire qui va avec.
Et remettre en perspective.
Et tout le monde peut essayer de se retrouver, bien sûr, avec son niveau dans votre ouvrage. Jean-Laurent Casselli, on va faire une pause musicale. Un titre que vous avez choisi, Rendez-nous la lumière de Dominique A. Pourquoi ce choix?
Alors, c'est une belle chanson qui a une histoire assez originale. Dominique A. avait lu, je crois qu'il était en tournée en Belgique à cette époque, il avait lu l'article de Télérama sur la France moche, article culte de 2010 ou 2011, qui fustigeait l'urbanisme de périphérie, l'étalement urbain et ses conséquences négatives. Et ça a quelque part inspiré la chanson qu'on va écouter.
On l'écoute tout de suite.
Des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de pleins rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. Tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
Complètement à l'Ouest, Philippe Boyer.
Complètement à l'Ouest, on est en compagnie de Jean-Laure Cassilly qui a pris ce magnifique titre de Dominique A. Rendez-nous la lumière. On parle bien sûr de votre ouvrage La France sous nos yeux. Alors, Jean-Laure, à plusieurs reprises dans votre livre, pour vous nous parler de cette apparition de la France d'après, tel un papillon qui sort de sa chrysalide. On connaissait cette expression un peu galvaudée, le monde d'après, ce monde post-pandémie qui devait sortir. Si vous deviez justement synthétiser, quelles seraient les grandes caractéristiques de cette France d'après ?
Vous parlez aussi, pardon, d'une France triple A.
Alors, deux questions, deux réponses. La France d'après, c'est un concept qu'on a forgé avec Jérôme Fourquet pour désigner non pas la France d'après le Covid, mais la France dans laquelle on vit, c'est-à-dire la France contemporaine, celle d'après les 30 Glorieuses, celle dans laquelle a grandi toute une génération. C'est celle de l'étalement urbain, c'est celle de ces transformations dont on a parlé en début d'émission vers le tourisme, vers la consommation. C'est un peu aussi la France des romans de Michel Houellebecq. Y a tout ce paysage en arrière-plan qui nous est cher, qu'on voulait décrire. Et par ailleurs, la France triple A est un autre concept, une autre formule, on va dire, du livre qui fait référence à la, quelque part, à la premiumisation de l'immobilier, de certains marchés immobiliers. On a voulu proposer notre propre lecture du territoire et de la carte de France, non pas classiquement selon un angle de densité ou de taille, en opposant les grandes villes, les petites villes, les banlieues, etc., mais plutôt selon un indice de désirabilité. Et cette France, la France triple A, c'est la France dans laquelle tout le monde veut vivre, c'est la France la plus désirable, c'est celle des grandes villes, des beaux quartiers, des quartiers en gentrification de Paris, de Bordeaux, de Nantes. C'est aussi celle des littoraux. Hein, on voit toute cette littoralisation, comme disent les professionnels, de l'immobilier vers le sud-ouest, toute la façade Atlantique, sud-est, on voit aussi des campagnes garnies de néo-ruraux, des stations de ski dans lesquelles on voit apparaître des coworking. Enfin voilà, c'est un petit peu cet archipel des zones désirables pour vivre. Et puis après, vous avez une France, si on reprend l'analogie avec les classements financiers, vous avez la France A, la France B, la France C. Bon, voilà. Et donc on essaie un petit peu de mettre de l'ordre dans le territoire en expliquant que les classes les plus aisées, les plus mobiles, se prennent les meilleurs morceaux et que les autres prennent ce qui reste, dans une logique un petit peu pyramidale. En fait, c'est une sorte de ruissellement à l'envers qui génère aussi des tensions localement. On le sait, c'est un sujet d'actualité, que ce soit en Bretagne, dans le sud-ouest, que ce soit dans certains villages de la Drôme ou à Paris ou à Marseille. On sait qu'il y a beaucoup de tensions liées à ce sujet en ce moment.
Alors, vous montrez dans ce livre, si je puis dire, les tops et les flops de cette France du début du XXIe siècle. Parmi les flops, pardon du terme, il y a deux secteurs, l'industrie et l'agriculture. Vous dites que ce secteur a connu le plus grand plan social silencieux de notre histoire, avec une fonte des effectifs d'un million à près de 400 000 personnes en 30 ans. Idem d'ailleurs pour les marins pêcheurs. Vous dites à l'inverse que notre pays a basculé dans un pays de la logistique, de la distribution, du tourisme et des loisirs. On en a déjà parlé. Et vous avez d'ailleurs des expressions sans doute vraies, mais un peu dur à entendre, comme par exemple, et je suis à la page 62, nous serions dans un gigantesque back-office, ou encore que nous avons basculé dans une société de l'entertainment, autrement dit loisirs. Ma question, et vous l'avez déjà abordée dans la réponse précédente, à la question précédente, ma question est celle des liens sociaux entre ces deux Frances. Est-ce qu'elles se parlent ? Est-ce qu'elles se comprennent encore, en clair ? Comment ces deux Frances peuvent-elles vivre ensemble ?
C'est une excellente question. La question du lien social, pour moi, c'est celle qui parcourt tout le livre, en fait. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on écrit sur ces transformations. C'est parce que je pense que beaucoup de gens aujourd'hui sentent que le pays est en train de changer très profondément. C'est pour ça aussi que beaucoup d'offres politiques sont orientées vers le passé, vers la nostalgie, parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne quelque part. Moi, je pense que dans toutes les descriptions qu'on fait, au-delà du côté peut-être un peu plombant pour le lecteur qui lirait tout d'une traite et qui se dirait « bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est une réaction qu'on me pose parfois. On me dit « bon, une fois qu'on a lu tout ça, qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, je pense que le lien social n'a pas disparu. C'est-à-dire on crée du lien social en allant acheter sur le Bon Coin, on en crée en allant dans un kebab ou en dansant la danse country, comme dans plein d'associations de la France rurale et périphérique. Donc en fait, tout n'est pas foutu, j'allais dire. Et surtout, le lien social, en fait, il est assez résilient. C'est juste que effectivement, le monde, la France a changé. Et il y a cette nostalgie un petit peu de la fin des 30 Glorieuses, de cet imaginaire du café au comptoir où tout le monde discutait. Alors c'est aussi une image un peu fantasmée, en fait, d'un passé qui n'existait pas forcément. Mais on sent bien que si les gens s'accrochent aussi à ces images, d'image. Je pense que c'est parce que il n'arrive pas à se projeter dans ce que va être l'avenir en fait de la société française dans les 10, 15, 30 ans à venir.
Mais est-ce que c'était plus clair à l'époque, j'allais dire, il y a 10, 15, 20 ans, le fait de pouvoir se projeter, ça a toujours été un pari quasiment impossible de se projeter.
Bah, je pense qu'on dit souvent que justement la modernité, le 30 glorieuse était une période tournée vers l'avenir. Je pense pas que les choses, que c'était mieux avant. Je pense en revanche que ce qu'on a perdu, c'est une certaine lisibilité de l'avenir et de la situation de chacun dans l'espace social. Mmh. C'est peut-être de ça dont les gens sont nostalgiques, pas d'une situation meilleure, mais d'une situation plus maîtrisable. C'est vrai qu'aussi, on parle beaucoup dans ce livre de la globalisation, des effets culturels, des effets démographiques, des effets économiques de la globalisation. C'est quand même un énorme sujet depuis toujours, diront les historiens, mais depuis les années 90-2000, c'est vrai qu'avec ne serait-ce que la mondialisation des médias et l'apparition d'Internet, la France est dans la conversation mondiale. Elle est ouverte aussi aux influences culturelles extérieures en permanence. Les gens vont et viennent aussi, bougent. Il y a énormément de Français qui habitent à Dubaï, aux États-Unis, qui prennent le TGV, l'avion. Donc tout ça, je dirais, complexifie grandement en fait le jeu et ce que c'est qu'être français.
Et la lecture.
Oui.
Dans une autre interview, vous avez déclaré de nombreux Français ne reconnaissent plus leur vieux pays. Est-ce que quand vous avez travaillé justement sur cette France, vous avez eu ce sentiment justement peut-être que des gens ne reconnaissent pas leur pays, peut-être les seniors aujourd'hui ou...
C'était effectivement... je répondais à une question d'un journaliste du Figaro à propos de cette nostalgie française qui s'exprime souvent dans une partie de l'électorat assez âgée. On le voit en ce moment dans la campagne présidentielle, c'est assez net et je pense que derrière vous avez des questions d'identité, les questions migratoires, mais vous avez aussi des questions que nous on traite dans le livre, qui sont des questions, j'allais dire, paysagères ou esthétiques. Hein. Quand on parle de la France moche, on déplore aussi souvent un paysage français, en fait, dans lequel parfois on se perd, on a mal. On dit souvent dans les banlieues résidentielles, dans les centres commerciaux, tout se ressemble, toutes les entrées de ville se ressemblent. Quand on est, là j'étais hier en grande banlieue parisienne, bon, c'est vrai qu'on se perd, que l'on soit en voiture, en RER, on sait pas toujours où on est. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect décrochage, en fait, qui peut être assez anxiogène et expliquer que les gens, encore une fois, se rattache à un passé qui n'était pas mieux, mais qui a le bénéfice pour lui d'être connu, en fait, d'avoir été expérimenté. Mmh. Et je pense que ça explique pas tout, mais ça explique une partie des tensions identitaires et de la crise face à l'avenir. Quoi.
Alors, vous parlez beaucoup dans votre livre de cette France d'après, celle que vous décrivez à l'instant. Et je vais vous faire écouter quelque chose de typique de cette France d'avant, bien avant, et cela va nous servir pour parler d'un des thèmes de votre livre. On l'écoute.
Comment est votre blanquette ?
Pardon ?
Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité ?
Oui.
Bon ?
Faut aimer, oui.
Avec du veau ?
Non, à base d'agneau, plutôt, je crois. Il y a du poulet aussi.
Il n'y a rien à base de veau, avec des champignons, des pommes de terre ?
Je sais pas. Au revoir, monsieur.
Vous avez bien sûr reconnu ce court extrait d'OSS 117 et ce passage, notamment « Comment est votre blanquette ?» On aurait tous aussi bien pu choisir ces autres extraits. On me dit le plus grand bien de votre hareng pomme à l'huile. Tout ça pour revenir sur le changement de nos habitudes alimentaires. Vous analysez, c'est à la page 413 pour être précis, les vagues qui modifient nos façons de manger. Il y a eu une vague japonisante avec la mode des sushis. Il y a désormais le kebab qui a droit de cité. La France d'ailleurs est le second pays européen le plus consommateur de kebab après l'Allemagne. Il y a aussi les tacos. C'est un phénomène plus récent. Bref, tout ça fait que le steak frites et autres blanquettes ne sont plus tout à fait les plats dominants traditionnels en France. Qu'est-ce que ces nouvelles habitudes alimentaires traduisent ? Est-ce que ça signifie que dans nos assiettes, il y a aussi cette France coupée en deux, entre guillemets, j'aime pas beaucoup cette expression, mais classe populaire et classe aisée ?
Ah, il y a plusieurs choses. Il y a déjà dans le fait que l'assiette, le menu français se soit complexifié, la question des migrations, mais j'allais dire même des migrations intérieures. Par exemple, on a une carte dans le livre, une très belle carte des graisses alimentaires et du fait que l'huile d'olive qui était est sortie depuis longtemps de son réduit méditerranéen pour aller conquérir les terres du nord et de l'ouest, les terres de beurre. Alors, évidemment, il reste plus de consommateurs de beurre en Normandie qu'en Provence, mais on trouve les deux dans les deux régions. Pourquoi ? Tout simplement parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que les gens énormément bougé. Par exemple, il y a beaucoup de retraités qui sont descendus dans le sud. Il y a aussi la question de la publicité. À partir des années 80-90, vous vous rappelez ces pubs un petit peu ridicules sur l'huile. Il y a eu toute une mode de l'huile d'olive. Donc, il y a eu un melting pot en fait culinaire qui s'est fait à la fois domestique et à la fois avec des influences étrangères. Le kebab, c'est typiquement les Turcs en fait qui l'inventent en Allemagne, qui après arrivent en France avec. Aujourd'hui, la plupart des jeunes ont déjà mangé un kebab. Maintenant, c'est plutôt la mode des tacos. Mais effectivement, il y a une sorte de sédimentation de couches en fait culturelles et qui se reflète dans l'assiette. Prendre un exemple d'actualité, on a vu la sortie du candidat communiste à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, sur le repas gastronomique français, la viande, le fromage et le vin qu'il avait soutenu et dont il voulait faire bénéficier les catégories populaires. Et on a vu que sur les réseaux sociaux, ça a créé beaucoup de tensions parce que pour une partie des gens, il y a à la fois une critique de l'élevage intensif qui doit se faire entendre. Il y a aussi la critique de l'alimentation carnée en raison du bien-être animal. Il y a aussi les gens qui boivent pas d'alcool. Il y a la question des produits laitiers. Donc on voit que même ces sujets qui étaient un petit peu des consensus en quelque sorte français ne le sont plus.
Alors, de la nourriture à la nourriture plus spirituelle, il y a de votre livre un chapitre intitulé « Le patchwork spirituel français », dans lequel vous parlez bien évidemment de la dislocation de la matrice catholique, de l'émergence des courants évangéliques, de l'essor de la culture psy, net, du yoga ou encore du chamanisme, de l'ésotérisme, voire de la sorcellerie. Alors, est-ce que toutes ces tendances sont le reflet du fait que le bonheur doit avant tout se retrouver ici et maintenant ?
On parlait du lien social tout à l'heure qui n'a pas disparu mais qui a muté en fait et qui s'est trouvé de nouveaux supports. De la même manière avec Jérôme Fourquet, on documente là ce qu'il avait très bien fait aussi dans l'archipel français, l'effondrement du catholicisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, l'effondrement des religions traditionnelles n'a pas fait disparaître l'envie de croire, l'envie de spiritualité. Et en fait, cette envie, elle s'exprime de plein de manières nouvelles et différentes, avec d'autres religions traditionnelles comme l'islam, mais aussi avec des religions modernes issues du New Age, avec le chamanisme, la sorcellerie, qui sont des phénomènes un petit peu marginaux, mais quand même on les voit apparaître dans les sondages. On voit, si vous vous baladez en banlieue ou dans des zones résidentielles, vous allez voir des plaques de médecins de médecine alternative, de gens qui pratiquent telle ou telle spiritualité. Donc ça, aujourd'hui, ça fait partie du paysage français et ça répond aussi a eu une attente. Nous, on est d'ailleurs assez agnostique, j'allais dire, sur ces sujets. Mais on constate que ça fait partie, encore une fois, du paysage de la France d'après.
Alors, outre l'ouvrage qui est le vôtre, il y a eu au cours de ces derniers mois de nombreuses parutions de livres qui tous s'appliquent à décrypter notre pays. Je pense notamment à ce que m'ont dit les Français. C'est un dialogue entre Cyril Hanouna et le journaliste Christophe Barbier. Il y a eu aussi Métamorphose ou Déchéance, Où va la France, du sociologue Michel Viverka, ou encore le dernier livre du philosophe Michel Onfray, L'art d'être français. Est-ce que ces parutions, dont bien sûr votre ouvrage, après celui aussi de Jérôme Fourquet, de l'Archipel français, est-ce que ces parutions traduisent le fait que de nombreux Français seraient comme, et vous l'avez déjà dit, on l'a déjà évoqué, déboussolés en ne reconnaissant plus notre vieux pays, seraient à la recherche de ces nouveaux repères pour essayer de comprendre enfin ce qui se passe sous nos yeux, pour reprendre une partie de votre titre?
Oui, parce que je pense qu'on est on est en campagne présidentielle, donc il y a une sorte de tradition française médiatique et éditoriale qui consiste à faire un peu de prendre le pouls du pays à l'approche d'une élection. C'est aussi le moment où il y a une disponibilité d'esprit des Français qui ont peut-être un peu marre du Covid aussi pour s'intéresser à leur société, à son évolution. Et puis je pense que encore une fois, on est dans une crise de repères en fait. Ça veut pas dire que la France se délite, ça veut dire qu'elle nécessairement, elle va aller vers autre chose. Mais tant qu'on est dans la période charnière, la période de transition, on en parle d'ailleurs dans le domaine architectural et urbanistique. Il y a plein de bâtiments en ce moment qui font l'objet d'un réemploi. Il y a beaucoup de friches, il y a des friches industrielles, mais il y a maintenant aussi des friches commerciales, des friches tertiaires, des friches de bureaux, il y aura des friches pavillonnaires demain. Et dans tout ça, on va construire quelque chose. Quoi ? On ne sait pas encore.
Sans doute beaucoup plus hybride ?
Probablement.
Ça sera peut-être l'objet du prochain ouvrage, on le verra. En tout cas, le temps passe très vite, chers amis. On va passer à une dernière question quand même. Vous venez de parler justement de politique. On se pose une question. Tiens, avec ce succès, est-ce que les candidats déclarés à l'élection présidentielle vous ont contacté, viennent-ils vous voir pour approfondir tel ou tel aspect de votre ouvrage ?
Pas vraiment, en tout cas pas encore. Nous, on n'a pas voulu faire un objet, un livre politique, dans le sens où c'est pas un livre, c'est pas nos 10 propositions pour la France, c'est pas non plus une boîte à outils pour être élu ou pour être réélu, mais en tout cas on pense en revanche plus sérieusement que les candidats, mais surtout les électeurs, quelle que soit leur famille politique, peuvent le lire sans se sentir mal à l'aise ou insulté et peuvent en tirer tous, j'espère, quelque chose.
Un immense merci, Jean-Laurent Casselli, d'avoir accepté de participer à cette émission. Votre livre, La France sous nos yeux, on le montre à l'écran puisque l'émission est filmée, avec pour sous-titre Économie, paysage, nouveau mode de vie, est publié aux éditions du Seuil. C'est véritablement passionnant. Les sources, vous l'avez compris, sont innombrables et ça se lit comme une enquête pour comprendre la société française et cela en plus à quelques mois d'enjeux politiques qui vont structurer nos 5 prochaines années. Merci beaucoup et merci en tant que co-animateur. Merci également à toute l'équipe en régie qui a préparé aussi cette émission. En attendant, donc, cette émission peut être réécoutée en podcast sur le site de Radio Imo ainsi que sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, bref, beaucoup d'autres plateformes de balado-diffusion. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Il est complètement fou ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.